dans quel monde vivons-nous? On prend l'expression qui m'avait servi dans l'introduction la semaine dernière. On vit dans un monde où le nombre de mariages a dramatiquement diminué, malgré l'augmentation de la population française. En 40 ans, il s'est réduit de moitié en nombre. Et il n'a pourtant jamais été aussi facile de rompre l'alliance du mariage. Difficile, semble-t-il, de s'engager également dans le mariage. On est dans un esprit plutôt de, comme au supermarché, on a un choix de possibilités devant nous, et puis on choisit la possibilité qui nous semble la meilleure. On peut même tout choisir. On peut même choisir d'être un homme ou une femme, indépendamment de son sexe biologique et de la façon dont on est né. Alors c'est difficile à se repérer, bien sûr. Ce matin, on va regarder l'origine des familles, et en particulier le rôle de l'homme. C'est l'homme qui nous intéresse ces semaines. On va être invité à un mariage, et même à deux mariages. Et le titre, donc, c'est « L'homme, l'heureux, heureux chef de famille ». Alors, lisons le texte de Genèse chapitre 2. Du verset 4 jusqu'à la fin du chapitre. Telle fut l'histoire du ciel et de la terre quand ils furent créés. Lorsque l'Éternel Dieu fit la terre et le ciel, et il n'y avait aucun arbuste des champs sur la terre. Aucune herbe des champs ne poussait encore. Car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait pas d'homme pour cultiver le sol. Cependant, une vapeur montait de la terre et arrosait toute la surface du sol. L'Éternel Dieu façonna l'homme avec la poussière de la terre. Il insuffla un souffle de vie dans ses narines et l'homme devient un être vivant. L'Éternel Dieu planta un arbre en Éden du côté de l'est. Il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser des sols des arbres de toutes sortes, agréables à voir et porteurs de fruits bons à manger. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là il se divisait en quatre bras. Le nom du premier était Pichon. Il entoure tout le pays de Havila où se trouve l'or. Je ne sais pas où c'est. L'or de ce pays est pur, et on y trouve aussi le Dédélion et la pierre d'onyx. Le deuxième fleuve est Guillon. Il entoure tout le pays de Couche. Le nom du troisième est le Tigre. Il coule à l'est de la Syrie. Le quatrième fleuve, c'est le Frate. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour qu'il le cultive et le garde. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger des fruits de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras, c'est certain. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. L'Éternel Dieu façonna à travers de la terre tous les animaux sauvages, tous les oiseaux du ciel, puis les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Il voulait que tout être vivant porte le nom que Dieu lui donnerait. L'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux sauvages. Mais pour lui-même, il ne trouva pas d'aide qui soit son vis-à-vis. Alors, l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme à partir de la côte qu'il avait prise à l'homme et il l'amena vers l'homme. L'homme dit, « Voici cette fois celle qui est faite des mêmes os et de la même chair que moi. On l'appellera femme parce qu'elle a été tirée de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme et ils ne feront qu'un. L'homme et sa femme étaient tous les deux nus et ils n'en avaient pas honte. L'origine de la création de l'homme, pour commencer. Alors, histoire ou origine ou généalogie, on le trouve traduit de différentes façons dans la Bible. Et là, vous avez un bel arbre généalogique que propose la parole de Dieu. Alors, cette histoire de la création est différente de la première. C'est l'homme qui est au centre. C'est de lui, par lui que commence l'histoire et tout semble s'organiser autour de lui. En tout cas, c'est le début de des familles de la terre et il y aura beaucoup, beaucoup de familles. On apprend que Adam était un vrai terrien. Et on ne peut pas le trouver plus terrien que le premier homme. Si l'homme est au centre de l'histoire, si tout semble être pour lui dans cette histoire, quand même, il y a quelque chose qui le ramène à un niveau très humble. Il est fait de poussière. Il est fait de poussière de la terre. La Bible Chouraki traduit le nom d'homme par le glébeux. C'est le glébeux. Mais cette poussière a été façonnée par Dieu. Et à cette poussière façonnée par Dieu, Dieu a donné le souffle de la vie. On le voit sur cette image. Le souffle de la vie. L'homme est de Dieu. Il appartient à Dieu. Et il n'est rien sans Dieu. Le paradis du jardinier. Le paradis du jardinier. L'Éden est le jardin de Dieu, créé par Dieu pour l'homme. Alors, un beau tableau qui a été fait ici par un artiste. Et vous avez vu ce que Dieu dit. Il a dit que c'était pour le cultiver et pour le garder. Le cultiver est ailleurs traduit par travailler, par servir. On aurait pu traduire qu'il était chargé de servir le jardin. C'est le même mot. Alors il ne s'agit pas donc de tirer profit de ce jardin, mais il s'agit de le travailler pour lui-même et pour Dieu qu'il a confié. Il n'y a pas quelque chose de personnel que doit retirer le premier homme Adam. Et il doit le garder. Ce n'est pas dans le sens que le jardin, quelqu'un le menace, qu'il faut qu'il monte la garde, non. Mais c'est le garder dans le sens de le garder dans son cœur, de ne pas le négliger, de ne pas l'oublier, de ne pas ne plus s'en occuper. Dans ce paradis du jardinier, il y a l'arbre de vie. Il y a l'arbre de vie. Le texte dit qu'il est au milieu du jardin et on peut supposer que cet arbre, effectivement, donne la vie. Alors, je ne sais pas lequel vous préférez de ces arbres dessinés ici. Quel est celui qui vous semble le plus beau? Quel est celui qui pourrait être, comme ça, peut-être, était l'arbre de vie? Et Adam y avait libre accès, et le vieillissement et la mort n'existaient pas dans le paradis de Dieu. Il y avait tout ce qu'il faut à l'homme. De la bonne nourriture en abondance et variée, de la fraîcheur, de l'eau, de la paix, de la beauté où qu'on puisse porter ses yeux, de la sécurité, de l'activité, des choses à faire. Et On verra des gentils animaux de compagnie. Il y avait également l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Au milieu du jardin se trouve l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'homme ne pouvait rencontrer rien de mauvais dans le jardin. Dans le jardin, il n'y avait pas de souffrance. Il n'y avait pas de choses qui pouvaient nous blesser. Pas de travail pénible, pas de fatigue, pas d'ennui. Pas besoin de s'évader, pas besoin de rêver d'autre chose, non. Tout était parfait. Il n'y avait pas de danger, il n'y avait pas de déception, il n'y avait pas d'angoisse, pas de contrariété, pas de larmes, pas de vacarme. L'homme avait une complète liberté, sauf un commandement, un seul commandement. Dieu seul définissait ce qui est bien et ce qui est mal. Cet arbre-là, l'homme ne devait pas y toucher. Donc dans le paradis de Dieu, l'homme avait ce qu'il lui fallait et il n'avait pas ce qu'il ne lui fallait pas. Mais toutefois, il manquait quelque chose dans ce paradis à l'homme. Il manquait quelqu'un. Il manquait quelqu'un. Voilà maintenant l'histoire de la création de la femme. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Le chapitre 1 nous avait renseigné que Dieu avait été déclaré, avait été créé sur la déclaration, cette déclaration de Dieu, faisons l'homme à notre image. Et le pluriel qu'il y avait là, faisons l'homme à notre image, rendait impossible que l'homme puisse être seul. Il devait aussi être pluriel, il devait y avoir aussi pour l'homme nous. Mon beau-frère, quand il a rencontré ma sœur, nous a raconté que l'année d'avant, il était en vacances, il avait commencé son travail, avant il travaillait avec ses parents sur une exploitation, mais là, il travaillait, il avait des vacances, il a dit « je vais faire un sentier de grande randonnée ». Il est dans la région d'Écosse là-bas, un sentier de belle, de grande randonnée. Et c'était très beau, il nous racontait tout ce qu'il avait vu dans ce sentier. Mais curieusement, à la fin, il nous a dit « à la fin, je doublais les étapes ». Et pourquoi tu doublais les étapes à la fin? Pourquoi à la fin, il fallait que tu voulais rentrer plus vite? Parce qu'il a dit, je me suis dit, j'ai pris cette résolution, non. La prochaine fois, tu ne feras pas ce sentier de randonnée seul. Et donc, il a rencontré ma sœur plus tard et ils se sont mariés et ils ont fait ce sentier de randonnée à deux. Là, c'était vraiment bien. Pour le premier homme, Dieu a fait défiler les animaux devant l'homme pour voir quel nom il leur donnerait. Et donc l'homme était obligé de bien les observer, de bien regarder. Et le donner un nom était une délégation, c'était une responsabilité. Dieu, au premier chapitre, c'est lui qui avait donné le nom au ciel, qu'il avait donné le nom à la terre, au jour. Et c'est une magnifique illustration de ce que la façon dont Dieu devait dominer la création. L'homme a observé attentivement les animaux et il a bien constaté qu'il n'y avait aucun d'eux qui lui corresponde. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et Dieu a dit, je veux lui faire une aide semblable à lui. Alors le mot aide, pareil, il a deux sens. Dans l'Ancien Testament, il signifie aussi un secours. Un secours. Et il est traduit secours. Parfois, il est traduit aussi compagne. Cela signifie que le mot aide ne doit pas être compris dans le sens de, voilà, c'est de la main d'œuvre. J'ai besoin de main d'œuvre pour faire ce que je fais, pas du tout. Il a, pour faire remplir sa mission dans le jardin, l'homme avait besoin de secours. Et puis, une aide semblable à lui ou un vis-à-vis. Un vis-à-vis. Quelqu'un qui lui corresponde, quelqu'un qui soit contre lui, proche de lui. C'est traduit de différentes façons. Une sorte de partenaire qui lui convienne parfaitement, qui lui soit assorti. Traduit le français courant. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il a besoin d'une aide semblable à lui. Il a besoin d'un vis-à-vis. Quelqu'un qui lui soit assorti. Et au-delà des couples, d'une façon générale, ce sont les relations que nous avons les uns avec les autres qui rendent la vie intéressante, qui la rendent épanouissante et enrichissante. Quand on est seul, on se sent bien triste. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et donc l'homme va façonner la femme. Alors il prend pas n'importe quel matériel, là il va pas prendre la terre, il va prendre une côte de l'homme. Alors là c'est déjà un matériau beaucoup 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 plus noble. Et il prend cette côte et il va former la femme avec la côte. Et donc le résultat ne peut être que meilleur, bien sûr. Hein, l'homme est un peu brut comme ça, et la femme est plus fine et plus délicate. On dit que Dieu a choisi de prendre la côte de l'homme pour qu'elle soit, que la femme soit proche de son cœur. Et c'est certainement le cas. Mais aussi, la femme devient ce qui manque absolument à l'homme pour qu'il soit complet. Dieu avait refermé la chair. Et donc, il manquait la côte. Et en quelque part, avec la femme qui est devant lui, l'homme va retrouver, il est à nouveau complet. Cette côte qui lui manquait, elle est là, à côté de lui. Il y a quelque chose qui est intéressant dans l'histoire. C'est que c'est Dieu qui a amené la femme devant l'homme. Hein, c'est Dieu qui l'a amené à lui. Et alors c'est là qu'on a le premier mariage. L'homme dit, voilà cette fois, celle qui est faite des mêmes os que moi, chair de ma chair, l'os de mes os. On l'appellera femme parce qu'elle a été tirée de l'homme. Si l'homme c'est Ish et la femme c'est Isha. Voilà le nom que lui donne l'homme. Cette fois, voici celle, quelqu'un comme moi. Elle tient vraiment de moi par tout son corps. On l'appellera femme de l'homme parce qu'elle vient de l'homme. Ou bien, ah, cette fois-ci, voici quelqu'un qui est plus que tout autre du même sang que moi. On la nommera compagne de l'homme parce que c'est de son compagnon qu'elle fut tirée. Il y a quelques années, il y avait Mélanie, la grande sœur de Matthieu, qui était là il n'y a pas longtemps, la petite sœur de Marc, et on faisait une réunion autour de la Bible. C'était l'après-midi, il y avait alors les enfants étaient là. Et puis, les adultes, comme ça, ont parlé. Et les enfants, eux, ils dessinaient. Mélanie, elle adore dessiner avec ses crayons, là, je me rappelle. Et donc, on parlait de ce passage. Et Mélanie, elle a dit, en dessinant comme ça, on n'a pas entendu la femme dire oui. À la femme, on ne lui a pas demandé son avis. Ah. Là, j'ai été bien surpris par cette question. Et j'ai pas su trop quoi lui répondre sur le moment. Mais maintenant je lui répondrai. C'est Dieu qui a conduit la femme à l'homme. Et elle n'avait aucune raison d'avoir peur. L'homme lui-même était parfait, il ne faisait pas peur. De plus, Dieu les a créés l'un pour l'autre. On n'imagine pas Ève qui dise « Oh, il est un peu terreux cet homme-là, hein ?» Non, non, c'est ça dont tu me parlais. Non, ça ne m'intéresse pas, je préfère rester seul et que lui aussi reste seul. Non, ça ne s'est pas passé comme ça. La femme, elle était très ouverte à ce que Dieu avait préparé. Il l'avait préparé pour quelqu'un, pour quelqu'un. Et l'homme ne va pas non plus, on n'est pas dans la guerre du feu. Hein, dans la guerre du feu, un homme qui voit une femme, il sort dessus et tout, comme une brute. Non. Ça, c'est l'histoire de la guerre du feu, c'est un film. Mais dans la parole de Dieu, la femme, elle est une partie, elle est une partie de l'homme. Et donc, l'homme ne peut pas ne pas bien la recevoir, ne pas bien en prendre soin. C'est sa propre chair, dit-il. Et puis, il n'y avait pas de violence, il n'y avait pas d'abus dans le jardin d'Éden. Donc, on a un oui enthousiasme. En tout cas, on a les paroles qu'a prononcées l'homme. Un attachement définitif, ce premier mariage. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront même chair. Voilà une des phrases parmi les plus citées de la Bible. 4 fois, on va retrouver cette citation de ce passage-là dans la parole de Dieu. Dieu avait prévu que chaque fois qu'un homme et une femme se mettent ensemble pour former un couple, il y avait une union définitive qui se produisait là. Et l'homme trouve dans sa femme plus que dans son père, plus que dans sa maman. Sa femme fait de lui un homme complet. Il va devenir un chef de famille, on va voir pourquoi plus tard. Sa femme passe avant son papa, avant sa maman. Alors le mariage, bien sûr, ça ne veut pas dire l'union de deux hommes entre eux, de deux femmes entre elles, d'hommes qui veulent être deux femmes, ou des choses tout mélangées comme ça, non. On voit que ce n'est pas du tout ce que Dieu avait prévu pour faire un mariage. Quelle place à la sexualité ? Il y a la mention ici du père et de la mère. Donc, la sexualité faisait partie du plan de Dieu. Mais on voit dans le texte qu'elle ne sera en quelque sorte utilisée ou dévoilée bien plus tard. Le mariage est une réponse à la solitude. Et à l'origine, donc, la sexualité est périphérique. Et nous, dans notre culture, elle n'est pas périphérique, elle est centrale. Et donc elle est en dehors du cadre dans lequel Dieu l'avait prévu. Et la sexualité est devenue comme une grande idole, la source de satisfaction qui remplace Dieu. C'est la sexualité pour notre société. Mais à l'origine, ce n'était pas du tout ça. Et ça se termine par une petite phrase. L'homme et sa femme étaient tous les deux nus et ils n'en avaient pas honte. Dans le paradis de Dieu, il n'y avait pas de honte, c'est-à-dire il n'y a pas de peur, il n'y a pas de soupçon, il n'y a pas de rien à cacher, il n'y a pas d'imperfection. Tout est parfait et tout est innocent de tout mal. Alors, peut-être vous trouvez que les choses ont bien changé depuis. Et peut-être dans votre cœur, soupire, hélas, hélas. Ce premier et beau mariage, combien c'est différent maintenant. C'est le moment de parler du dernier mariage. Généralement, on aime bien assister au mariage. Qui c'est qui a assisté à un mariage, déjà? Les enfants, assister à des mariages? Oui? Non? Pas encore. Ça viendra. Généralement, c'est très bien. Mais, parfois, ça peut réveiller des douleurs. Mon mariage est triste, je ne suis pas heureux et je m'y sens seul ou je m'y sens tellement seul dans ce mariage. Ou mon mariage s'est brisé, je suis divorcé, je suis séparé. Ou bien l'homme et la femme que j'aimais m'ont fait tellement de mal, ils m'ont rejeté. Ou bien je sais que je ne pourrai jamais, jamais me marier. C'est une chose qui est impossible pour moi. Alors on peut tous ensemble tourner les regards vers le dernier mariage. Vers le dernier mariage. Et la parole de Dieu parle d'un autre mariage. Et par rapport à ce mariage-là, ceux qui vivent dans un mariage heureux, ben ils trouvent que finalement, il y a tellement beaucoup mieux que cela. Et ceux qui vivent qui souffrent de la solitude, ou vont trouver une vraie consolation dans ce dernier mariage. Il est le plus grand, il est le plus beau de tous, et il est ouvert. Quiconque croit peut être participant, non seulement être un acteur, mais être un participant de l'héroïne de la mariée. Mais comment cela est possible? Elle est parfaite, elle est rendue parfaite et elle va vivre pour toujours un bonheur parfait avec un époux merveilleux. Et le nom de cet époux, c'est Jésus, le Fils de Dieu. Et le nom de l'épouse, c'est l'Église, l'Église de Jésus. Alors j'ai mis quelques textes ici où les apôtres et les apôtres s'adressent aux chrétiens. Et j'ai mis un psaume également. Pierre a écrit, vous l'aimez, Jésus, sans l'avoir vu. Vous croyez en lui sans le voir encore et vous vous réjouissez d'une joie indescriptible et glorieuse parce que vous obtenez le salut de votre âme pour le prix de votre foi. Psaume 45 parle de ce mariage du grand roi. Écoute ma fille, regarde et tends l'oreille. Oublie ton peuple, la maison de ton père. Le roi porte ses désirs sur ta beauté. Puisqu'il est ton seigneur, prosterne-toi devant lui. L'apôtre Paul explique que, en fait, les couples d'aujourd'hui ne sont que l'image, le reflet, l'illustration de ce grand mariage à venir entre l'Église et Jésus-Christ. Et il écrit ceci. « Femme, soumettez-vous à votre mari comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme comme Christ est le chef de l'Église. Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église. Il s'est donné lui-même. » Raccourci un peu là. Pour faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux ne feront qu'un. Ce mystère est très grand. Je dis cela par rapport à Christ et par rapport à l'église. Le dernier mariage, c'est celui qu'il ne faut pas rater. Et c'est celui qui est vraiment le principal. Alors, quelques applications maintenant, avec en tête nous qui sommes chrétiens. Christ s'est donné lui-même pour faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte. Et irréprochable, c'est ce à quoi il travaille et nous sommes au bénéfice de la grâce de Dieu quand on croit en Jésus. La première application, c'est d'accepter sa situation, je pense. Alors, il y a de la pression avec la sexualité de nos jours. La sexualité n'est pas une fin ni un moyen d'épanouissement personnel. Et d'ailleurs, l'épanouissement personnel n'est même pas une quête valable. Car ce qui nous comble, ce qui va nous rendre complet, ce qui va nous remplir complètement, c'est Jésus. Et c'est aussi l'autre qui est créé à l'image de Dieu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et ton prochain comme toi-même. L'épanouissement, le bonheur, il est dans l'autre. Accepter sa situation. Sommes-nous malheureux en mariage? Souperons-nous à nous marier? Avons-nous été blessés par une contrefaçon de l'amour? Dieu est celui qui pourvoit à tous nos besoins. En attendant le dernier, le grand, le vrai mariage, dont celui de Genèse 2 n'est qu'une illustration. Accepter sa situation. Oser le mariage. Il y a peu de mariages maintenant, les jeunes se marient très tard. Et puis, c'est pas facile. Peut-être qu'il y a de la peur de rater. On se met la barre tellement haut. La peur de ne pas être à la hauteur. La peur de la femme qui est si différente ou de l'homme qui semble peut-être redoutable. La peur de soi-même. Mais au chapitre 1, on a vu, il y a une bénédiction associée à la fécondité. Alors il ne faut pas avoir peur du mariage, car Dieu le bénit. Dieu bénit le mariage. On peut oser le mariage. Le mariage, c'est la réponse de Dieu à la solitude. Et la sexualité doit être asservie au mariage et non l'inverse. Il ne faut pas inverser les choses. La sexualité est la servante du mariage et du mariage seul. Ayons confiance en Dieu. C'est Dieu qui a présenté Ève à Adam. On avait vu il y a quelque temps l'histoire d'Isaac et de Rebecca, qui est une magnifique illustration de ce principe-là. On peut oser le mariage. Une autre illustration, j'aurais pu mettre une belle photo. Vous allez dire, ça tombe comme un cheveu dans la soupe. L'homme et la femme, à l'origine, sont des jardiniers. Alors, qu'est-ce que ça vient faire là, des jardiniers, à ce moment-là, du message? Un jardinier est quelqu'un qui doit observer, qui doit surveiller son jardin. S'il passe deux jours sans aller voir ce qui se passe, il se dit, mais qu'est-ce que je vais trouver? L'observation, observer attentivement les plantes, comment elles se portent, qu'est-ce qu'il y a, est-ce qu'il n'y a pas des parasites, le soigner, la qualité du sol, de l'arrosage, l'orientation par rapport au soleil, par rapport à l'ombre, la cohabitation des espèces entre elles, la guerre contre l'invisible. Un jardinier procure beaucoup de soins, il observe, il donne des soins, il fait de l'expérimentation aussi. Il apprend de ses erreurs et de ses réussites et il travaille avec le temps long. Chaque fois, c'est une année, des fois bien davantage pour les arbres. Pour enrichir un sol, il va falloir des années. Et puis surtout la dépendance de Dieu. Paul dit, j'ai semé, Barnabas a arrosé, mais c'est Dieu qui a fait croître. Et la croissance est remplie d'aléas qui semblent tellement mystérieux. Dans mon jardin, j'ai deux cerisiers qui ont poussé. Il y en a plusieurs qui ont poussé tout seul. Il y en a un qui est gros comme ça. Et il doit avoir maintenant plus de 10 ans d'âge. Et l'autre, il est gros comme ça et il en a deux fois moins. Pourquoi il y en a un qui est gros comme ça et un qui est petit comme ça? Le premier semblait si bien, avoir si bien démarré, mais en passant la tondeuse, je n'ai pas suivi le conseil qu'on m'avait donné de le protéger avec des piquets et j'ai écorché son écorce. et ça lui a complètement coupé sa croissance. On apprend beaucoup de choses dans un jardin. Si on peut avoir un jardin, si on peut faire des plantations, on apprend beaucoup de choses sur la vie, on apprend beaucoup de choses sur l'humilité, sur la relation aux choses, et on met en perspective certaines choses qu'il est impossible d'apprendre autrement. Toutes ces qualités, on en a besoin, parce que nos vies aussi sont comme des jardins. Nos familles sont comme des jardins. Nos communautés sont comme des jardins. Dieu nous les donne, nous les confie pour qu'on les cultive, qu'on les serve et pour qu'on les garde, qu'on en prenne soin. Pour notre bonheur. Pour notre bonheur. J'ai une application, quelques applications pour les hommes maintenant. Alors, nous sommes tous au bénéfice de la grâce de Dieu devant ces applications. Dieu est là, il était là, c'est lui qui est à l'origine de toute chose et il est là encore aujourd'hui. Il est impossible de nous comparer, on l'a vu dans mon histoire de cerisier, impossible de comparer. Les deux cerisiers, ils ont une histoire différente. Mais, dans notre texte, il y a une responsabilité particulière de l'homme par rapport à la femme. Quatre choses. Il a été créé le premier. Il a reçu le commandement de Dieu, lui, de ne pas toucher à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. La femme a été créée pour l'homme et l'homme a donné son nom à la femme. Alors tout ça donne un leadership et une responsabilité devant Dieu. Nous devons donc, nous autres les hommes, prendre soin particulièrement de nos épouses. Personne ne peut le faire à notre place, ni à notre humain, ni notre organisation humaine, ni autre chose. C'est notre responsabilité. Cette responsabilité s'étend également à la communauté et nous devons veiller au bien commun des enfants, des femmes, des humains en général. Une responsabilité particulière à l'homme. Je vois aussi un renoncement à la solitude. Nous autres, les hommes, on a vite tendance à revenir au moment où on était seul. Revenir en arrière. Et la solitude n'est pas bonne. Elle ne peut pas être un refuge. Son travail, son garage, sa console de jeu, ses livres ou n'importe quoi d'autre ne peuvent pas être des fuites devant les difficultés. Renoncer à la solitude. S'attacher à sa femme. Le mariage est le premier contrat social. On s'engage, on tient ferme, parce qu'on est des hommes responsables devant Dieu. On est des hommes responsables devant Dieu. Et pour terminer, rester attaché à sa femme. L'homme s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Il est écrit l'homme s'attachera à sa femme. Il n'est pas écrit la femme s'attachera à son mari. Et il y a des études qui montrent que la réussite du mariage, les hommes portent l'immense majorité de la réussite ou de l'échec. C'est dans leurs mains. La réussite ou l'échec de leur mariage est entre leurs mains. Et quand on voit ici le verset, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église, il s'est donné lui-même. Ça parle de cette responsabilité si l'homme ici-bas illustre le Seigneur Jésus-Christ. Alors, avec l'aide de Dieu, avec la patience et les prières de nos épouses, avec la détermination, ne pas permettre que l'égoïsme ou l'aveuglement ou la paresse ou l'entêtement entame le précieux lien de notre mariage. Dieu est là, le Seigneur est là, si on est du côté du rôle de l'homme, on est aussi dans l'Église, et dans l'Église, on reçoit de Jésus-Christ tout ce qu'il nous faut, par sa grâce. Encore une fois, on n'est pas là pour, et on ne peut pas, et on n'a pas le droit de se comparer les uns aux autres. C'est Dieu seul qui fait croître. Voilà. Je vais monter encore un petit peu plus en crescendo dans les applications la semaine prochaine. Prenez ceci avec douceur, avec venant comme d'un homme rempli de ses propres faiblesses. On va prier. Seigneur, le mariage est une si belle chose et nous sommes heureux que tu l'aies donné. On ne comprend pas tout, mais on comprend là où on est heureux et ce qui fait notre bonheur. Merci de la façon dont tu nous as créés pour aimer. Le monde est déchu, le mariage est déchu, mais la chute n'aura pas le dernier mot. Tu as prévu le relèvement et tu as prévu un projet beaucoup plus grand que ce que tu montres au monde à travers ce qui se passe entre un homme et une femme, cette relation unique qu'il va y avoir entre toi et ton Église et dans laquelle nous sommes tous invités à y prendre notre place. Merci pour Jésus-Christ. Nous l'avons souvenu tout à l'heure, nous avons pris le pain et le vin en souvenir de son sacrifice, du pardon de nos fautes. Merci parce que c'est à lui que nous voulons être entièrement dévoués et présentons nos familles, nous présentons les maris, nous présentons les épouses, nous présentons les enfants, comme selon ta promesse, que tu nous bénisses. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen.